Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour, il est 6h, temps universel. Ravi de vous retrouver pour Le Monde aujourd'hui. Une demi-heure d'infos sur la VOA. Jacques Aristide à Washington, aux côtés de Anne Albertson en ce mercredi 17 septembre 2014. Bonjour Anne.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
Les titres ce matin, le président américain appelle le monde à agir vite contre l'épidémie d'Ebola pour éviter le pire. Pendant ce temps, pas de réaction néfaste au premier test d'un vaccin. La RDCL veut avoir accès au traitement Zimap.
En Afrique de l'Ouest, notamment au Libéria, nous avons eu par exemple le Zimap. Nous nous sommes inscrits également pour certains tests. Nous avons écrit officiellement au gouvernement américain.
Au Niger, l'opposition porte plainte pour détournement de fonds dans l'achat du nouvel avion présidentiel. À l'international, le chef d'état-major américain n'exclut pas le déploiement de troupes terrestres en Irak pour combattre l'État islamique. Et dans la partie magazine, une première en Afrique, des Togolaises fabriquent des ordinateurs en bidon.
Cet ordinateur-là montre qu'on peut à la fois allier environnement et technologie parce que c'est faire partie des produits recyclés tels que les déchets technologiques.
Tout sera dévoilé tout à l'heure. À venir également les dernières nouvelles sportives et la tranche musicale en fin de magazine.
Le président américain Barack Obama a appelé hier à agir vite face à l'épidémie d'Ebola pour éviter que des centaines de milliers de personnes ne soient infectées. Depuis le début de l'année, la maladie a fait 2461 morts, notamment dans trois pays d'Afrique de l'Ouest, d'après le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé. Le président Obama a annoncé l'envoi de quelques 3000 militaires sur le terrain, ajoutant que les États-Unis étaient prêts à jouer un rôle moteur dans la lutte anti-Ebola. Au-delà de la création d'un centre de commandement militaire à Monrovia, capitale du Libéria, pour soutenir les efforts à travers la région, M. Obama a annoncé la mise en place d'un pont aérien pour acheminer le personnel sanitaire et le matériel plus rapidement vers l'Afrique de l'Ouest, ainsi que d'une base intermédiaire au Sénégal.
Et vous le savez, il n'existe aucun vaccin homologué contre Ebola, mais le premier essai clinique d'un vaccin expérimental n'a pas provoqué à ce jour de réaction néfaste chez une poignée de volontaires aux États-Unis, d'après le docteur Anthony Fauci, directeur de l'Institut américain des allergies et des maladies infectieuses. Ce vaccin fait l'objet d'une étude clinique sur 10 personnes depuis le 2 septembre. Les résultats complets devraient être disponibles à la fin de l'année. De son côté, la République démocratique du Congo, qui fait aussi face à une épidémie d'Ebola dont le dernier bilan s'élève à 39 morts, a demandé au gouvernement américain de lui donner accès au sérum expérimental Zimap, qui est le premier traitement testé contre Ebola. Je vous propose à écoutez le ministre congolais de la Santé, le docteur Félix Kabongé Numbi.
C'est vrai qu'aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, notamment au Libéria, où nous avons eu, par exemple, le Zimap qui a été utilisé par les Américains et principalement pour le personnel de santé, parce qu'il n'y a pas suffisamment de doses pour qu'on donne aux populations. Nous avons actuellement 8 molécules qui sont sur le point d'être testées sur la personne humaine, dont 2 vaccins. Et nous nous sommes inscrits également pour certains tests, notamment pour le Zimap, où nous avons écrit officiellement au gouvernement américain.
Le ministre Numbi interviewé sur Top Congo FM, notre radio partenaire à Kinshasa.
Au Niger, les députés d'opposition ont déposé hier une plainte contre X pour vol et détournement de deniers publics après l'achat par le gouvernement nigérien d'un nouvel avion présidentiel, un appareil d'occasion surfacturé, selon eux, pour environ 40 millions de dollars. Le gouvernement nigérien n'a pas encore réagi. D'après l'AFP, le ministre de la Défense, Karijo Mahamadou, avait annoncé le 1er septembre l'achat du nouvel avion présidentiel, acquis, selon le ministre, sur fonds propres du Niger.
Des hommes armés suspectés d'appartenir à Boko Haram ont ouvert le feu sur un convoi militaire et blessé 4 soldats dans l'état de Kogi, dans le centre du Nigeria, d'après l'AFP, qui cite une source militaire nigériane. Le convoi de 850 soldats est tombé dans une embuscade près de la ville d'Okene, alors qu'il se rendait à Lokoja, la capitale de l'état de Kogi. Les combats continuaient hier entre les insurgés de Boko Haram, qui assiègent la ville de Konduga, dans l'état de Borno, dans le nord, et les troupes nigérianes.
Et Nigeria toujours, nous vous l'annoncions hier, une cour martiale a condamné à mort 12 soldats pour tentative d'assassinat de leur commandant. Plus de détails ce matin avec Sarah Diaby. Les autorités militaires nigériennes affirment que les 12 hommes ont ouvert le feu sur le véhicule de fonction du général Ahmed Mohamed dans une caserne de Maiduguri, berceau du groupe islamiste Boko Haram. La cour martiale a aussi jugé les suspects coupables d'insubordination et d'abus de langage, de même que d'obstruction de l'évacuation de leurs collègues tués dans l'embuscade qui a eu lieu un peu plus tôt cette année. L'armée nigériane, appuyée par l'aviation, continue de se battre contre l'offensive de Boko Haram. Toutefois, les troupes se plaignent de n'être pas suffisamment équipées et armées face aux insurgés, ce qui serait à l'origine du mécontentement de 12 soldats condamnés à mort. À l'occasion de sa rentrée parlementaire hier, le Sénat nigérian a dit qu'il enverra une délégation rencontrer le président Goodluck Jonathan pour l'exhorter à livrer une guerre totale contre Boko Haram.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le plus haut gradé de l'armée américaine, le général Martin Dempsey, a évoqué hier, lors d'une audition devant une commission du Congrès, la possibilité du déploiement de troupes américaines au sol en Irak pour combattre les djihadistes du groupe État islamique. Le général Dempsey a ajouté que s'il fallait envoyer des conseillers militaires au front en Irak, il demanderait au président Barack Obama d'y accorder son feu vert. Il a néanmoins expliqué que pour l'heure, ses conseillers n'ont aucunement vocation à être impliqués directement dans les combats. La porte-parole du département d'État, Murray Harf, a réitéré la position exprimée par M. Obama, c'est-à-dire pas de troupes américaines au sol en Irak.
Accord israélo-palestinien pour accélérer la reconstruction de Gaza. D'après le coordinateur de l'ONU au Proche-Orient, Robert Seri, Israéliens et Palestiniens se sont mis d'accord sur un mécanisme provisoire pour ce projet tout en s'assurant que les matériaux de construction demeurent à usage civil. L'accord, a estimé M. Seri, est un pas important vers l'objectif d'une levée de toutes les restrictions pesant sur la bande de Gaza et un signal d'espoir pour la population de Gaza.
La Russie va renforcer son dispositif militaire en Crimée en raison de l'aggravation de la crise en Ukraine et de l'augmentation des forces étrangères près de la frontière russe. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre russe de la Défense, Claire Morin-Gibourg.
Sergueï Shoigu a déclaré mardi à l'agence de presse Interfax que le déploiement de forces militaires autonomes dans la péninsule de Crimée était une priorité absolue. Il a précisé que la situation en Ukraine s'était sérieusement aggravée et que la présence militaire étrangère à proximité immédiate des frontières russes avait augmenté, faisant référence à l'opération Rapid Trident impliquant 15 pays dont les États-Unis, opération qui a commencé lundi dans l'ouest de l'Ukraine. Cet exercice régional de maintien de la paix devrait durer jusqu'au 26 septembre. Selon le Pentagone, environ 1300 personnes y participent, dont 200 soldats américains. Le président de la Chambre basse du Parlement russe, la Douma, a accusé les États-Unis et leurs alliés de mener une politique qui, je les cite, « pousse le monde au bord d'une nouvelle guerre froide ». Selon l'OTAN, un millier de soldats russes se trouvent toujours dans l'est de l'Ukraine, tandis que 20 000 autres restaient massés le long de la frontière russo-ukrainienne.
En France, le gouvernement du Premier ministre Manuel Valls a obtenu de justesse hier un vote de confiance de l'Assemblée nationale, ce qui lui permet de surmonter pour le moment une crise économique et politique. Le compte-rendu de Issia Kaba.
L'Assemblée nationale a approuvé la déclaration de politique générale du gouvernement.
À l'issue du vote, le Premier ministre Valls a obtenu ce qu'il espérait. 269 voix pour, 244 voix contre. Toutefois, son gouvernement a perdu sa majorité absolue, certains des législateurs dissidents s'étant abstenus de voter.
Si avec le président de la République, nous avons souhaité demander la confiance, c'était pour poursuivre notre route, celle du redressement de la France. Si nous ne l'avions pas fait, pendant des jours et des semaines, le questionnement sur la capacité de la majorité à poursuivre son travail aurait été au cœur des débats.
Manuel Valls et le président François Hollande sont pourtant loin d'avoir surmonté leurs problèmes. La France se bat contre une économie stagnante et un taux de chômage record, ce qui explique une cote de popularité de 13% pour le président Hollande, qui devient ainsi le leader français le plus impopulaire des temps modernes. Le vote à l'Assemblée nationale est intervenu au lendemain de la conférence internationale de Paris sur l'Irak, au cours de laquelle divers pays ont promis de contribuer à la lutte contre les militants de l'État islamique.
Voilà donc pour le tour d'horizon de l'actualité. Nous allons retrouver Anne tout à l'heure. Vous êtes toujours branché sur la VOA émettant de la capitale américaine. Jacques Aristide avec vous pour aborder maintenant la tranche magazine du Monde aujourd'hui. Et il est d'abord question de ce rapport historique de l'ONU qui conclut que lutter contre le réchauffement climatique générerait de la croissance économique. Le document est publié à une semaine du sommet sur le climat. 125 chefs d'État, des chefs d'entreprise et des militants de la cause environnementale y participeront. Les points saillants de ce rapport de l'ONU avec Jean-Roger Billon.
Dans une perspective économique, le rapport invite à prendre des mesures audacieuses sur le changement climatique. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, estime que le monde ne peut plus se permettre d'hypothéquer son chemin vers la prospérité.
We need a structural transformation in the global economy.
Nous avons besoin d'une transformation structurelle de l'économie mondiale. Ce rapport plaide en faveur d'un nouveau modèle où la croissance économique et l'action climatique se renforcent mutuellement et il montre comment nous pouvons le faire.
En 2030, 1 milliard de personnes auront migré vers les villes. La façon dont les gouvernements vont gérer les 90 000 milliards de dollars qui seront investis dans les systèmes énergétiques, le développement urbain et l'exploitation des terres au cours des 15 prochaines années vont déterminer les normes de croissance, de productivité et de vie. Estime Felipe Calderón, l'ancien président du Mexique préside la Commission mondiale sur l'économie et le climat qui a rédigé le rapport.
Les 15 prochaines années de décision et les 15 prochaines années d'investissement détermineront l'avenir du monde et, entre autres choses, le climat. Si nous n'agissons pas dans les années à venir, les coûts vont augmenter et il sera plus difficile de tendre vers une économie verte au niveau mondial.
Des centres urbains à forte densité construits autour de transports en commun pourront faire accroître l'économie tout en devenant des endroits plus sains et moins pollués. Restaurer les terres agricoles dégradées pourrait contribuer à nourrir des millions de personnes et des investissements dans les énergies renouvelables plus attrayantes occasionnent déjà une baisse spectaculaire de prix, selon Jeremy Oppenheim, le directeur du programme de la Commission.
Le coût de l'énergie solaire a baissé de 90% au cours des dernières années. Au Brésil et au Texas, les énergies renouvelables ont démontré leur compétitivité relativement à une nouvelle accumulation de charbon.
Le rapport recommande l'élimination progressive des subventions aux combustibles fossiles, la création d'une taxe sur le carbone et l'intensification de l'innovation dans les technologies à faible intensité carbonique, la prise des mesures nécessaires pour éviter le réchauffement. Le changement climatique est un investissement, pas une dépense, assurent les auteurs du rapport. La croissance économique et une politique climatique responsable vont main dans la main et ils invitent les leaders à des décisions conséquentes. Le nouvel accord climatique sera finalisé lors d'une conférence des Nations Unies à Paris à la fin de l'année prochaine.
L'ONU indique que de nombreux équipements nécessaires aux forces de la MINUSCA, la mission de stabilisation des Nations Unies en République centrafricaine, sont actuellement bloqués dans le port de Douala au Cameroun. Reportage de Moki Edwin Kinzeka, correspondant de la VOA à Yaoundé. Reportage présenté par Michel Joseph.
Selon le général Babacar Gueye, représentant spécial de l'ONU en RCA, l'aide matérielle et alimentaire se trouvant dans le port de Douala au Cameroun est essentielle pour répondre aux besoins humanitaires de la population centrafricaine. Les principaux défis sont tout d'abord la restauration de l'autorité de l'État et la réconciliation entre les communautés. Cela peut être considéré comme un peu difficile, notamment à Bangui et à la frontière où l'on a vu des confrontations armées ces derniers jours, ce qui est très inquiétant. Mais si vous considérez la situation dans son ensemble, vous verrez une amélioration et elle va être renforcée si nous pouvons mettre en œuvre correctement ce qui a été décidé. Le courtier en douane, Ferdinand Difor, qui négocie la livraison des marchandises destinées à la RCA, indique que des goulots d'étranglement administratif sont responsables de l'impasse à Douala.
Nous avons de longs processus.
Nous avons des processus longs, des formalités administratives et autres. Ils fournissent la garantie financière de leurs ambassades. Alors pourquoi retarder la livraison de leurs marchandises? L'option sera de créer un port sec autour de Dibamba. Toutes les marchandises destinées à la RCA et au Tchad, il faut les retirer du port de Douala pour éviter la congestion. Nchechuma Banla, l'agent des relations avec les médias pour le port, a déclaré à la VOA que les biens destinés à la RCA et qui doivent transiter par le Cameroun, principale voie d'accès vers Bangui, ont été retenus durant les 7 derniers mois à cause de la lenteur du processus d'inspection parce que le port est encombré. 90% des marchandises destinées à la Centrafrique passent par le port de Douala. Les retards sont désastreux, non seulement pour l'économie du Cameroun, mais aussi les économies des États de l'Afrique centrale qui dépendent du port de Douala.
Washington Forum consacré ce jeudi à la situation en Centrafrique. Arrivée des casques bleus, nouveau Premier ministre, report probable des élections. La transition peut-elle encore être sauvée dans le pays ? Laissez-nous vos commentaires sur notre page Facebook. Ils seront lus en direct ce jeudi 19h, temps universel pendant l'émission. La Centrafrique en débat, c'est ce jeudi sur La Voix de l'Amérique.
Le monde aujourd'hui se poursuit sur la VOA, Jacques Aristide avec vous. Et maintenant, cette nouvelle fascinante qui nous vient du Togo, où un groupe de jeunes filles ont récemment réalisé un véritable tour de force. Elles ont pu monter les tout premiers ordinateurs, tenez-vous bien, en bidon. Oui, le bidon, vous le savez, ce récipient en fer blanc. Du coup, elles prouvent que la technologie en Afrique n'est pas uniquement l'affaire des hommes. Et tout naturellement, il fallait trouver un slogan choc pour ce projet. Et le voici, des ordinateurs en bidon, mais pas bidon du tout, disent ces jeunes filles avec un brin d'humour. Allez, sans plus tarder, le reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lorson.
Au Togo, comme un peu partout sur le continent africain, le domaine des sciences de la technologie est et demeure l'apanage des hommes. La preuve, au Togo, seulement 8% des étudiantes s'inscrivent dans des facultés de sciences. Fort de ce constat, l'Américain Corner de l'Université de Lomé a organisé du 9 au 13 septembre 2014 un camp dénommé Female Tech Camp. L'objectif est d'encourager les jeunes filles à acquérir des compétences technologiques. Nadège Afoutou, responsable du Female Tech Camp.
Nous avons constaté qu'il y a très peu de filles dans les filières informatiques et la plupart d'entre elles qui s'engagent dans ce domaine font du software. Peu d'entre elles font le hardware. Donc c'est l'occasion pour nous de leur montrer qu'elles peuvent faire du hardware d'une part et aussi de leur montrer qu'il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent à elles et également pour les aider à être des leaders d'incubateurs de technologie dans leur communauté.
C'est un cliché d'affirmer que les femmes ne peuvent pas exceller dans les sciences et technologies. Aussi bien les filles que les garçons ont les mêmes aptitudes, soutient Dr Amivi Kafui Tété Bénissant, présidente de l'Association des femmes scientifiques du Togo.
Étudier en sciences et technologies, c'est à la portée de tout le monde. Filles comme garçons, ce qu'il faut, c'est la persévérance. Il faut oser, il faut refuser les solutions de facilité, il faut de l'abnégation, il faut des efforts en continu. Et c'est un sacrifice de tous les jours. Si on donne les mêmes chances aux filles comme on donne aux garçons, il n'y a pas de problème que les filles aussi réussissent.
Une vingtaine de filles ont pris part au Fumante Camp, au cours duquel elles ont fabriqué des ordinateurs assez particuliers. Nadège Afoutou, coordinatrice du Female Tech Camp.
L'élément spécial de ce tech camp, c'est l'ordinateur en bidon, pas bidon du tout, que le Well a conçu et qui est dénommé le WAFAT. Cet ordinateur-là montre qu'on peut à la fois allier environnement et technologie, parce que c'est fait à partir des produits recyclés, tels que les déchets technologiques, les bidons, les ordinateurs qui ne servent plus à rien du tout.
Le Female Tech Camp a permis à des jeunes filles passionnées de la technologie de briser le mythe autour de la fabrication d'ordinateurs. Elles en ont fabriqué elles-mêmes.
Ils sont aussi fonctionnels que les ordinateurs sortis tout droit de l'usine. Tout aussi utiles, font les mêmes choses.
Avant qu'on voit l'unité centrale, c'est comme un truc qu'on ne peut pas toucher. Mais en fait, quand c'est avec un bidon, c'est ordinaire, quoi. Tout le monde peut avoir assez, tout le monde peut toucher. C'est un peu plus familier.
Cette initiative se veut une plateforme pour susciter des talents féminins dans le domaine technologique. Ceci en accord avec le thème 2014 de la journée de la femme africaine qui est « Rôle des femmes et des filles dans l'éducation, les sciences et les technologies en vue d'une reconnaissance africaine ». Kay Lawson, Lomé pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpamé.
Une campagne visant à persuader les Rwandais d'utiliser un nouveau type de four amélioré qui demande moins de combustible et dégage moins de fumée a été un échec selon les fabricants. Il pense que les gens ne réalisent pas encore que ce type de fourneau est économique et protège leur santé et l'environnement, comme l'explique Nick Lang à Kigali dans ce reportage relaté par Lionel Gaïma.
Il existe différents types de foyers améliorés au Rwanda. L'un des plus abordables est un four à charbon en céramique et en métal qu'on appelle Chanamake. Il y a 3 ans, le ministère rwandais des infrastructures a approuvé un nouveau type plus durable de Chanamake et souhaité que 80% des ménages à Kigali adoptent ce système de cuisson. Celui-ci permet d'économiser environ 30% de charbon de bois par rapport au four non amélioré et 11% par rapport à l'ancien modèle Chanamake, selon l'Organisation internationale Action Pratique, qui a contribué à sa conception. Mais il coûte près de 7 dollars, alors que l'ancien modèle coûte 2 dollars et quelques. Selon un fabricant de la coopérative AJDR, la production de Chanamake à Kigali est réduite et les ventes sont en baisse parce que le gouvernement a supprimé la subvention. Alain Sanzabaganwa, le trésorier de la coopérative, dit qu'ils ne vendent pas beaucoup de leurs foyers améliorés, qu'ils n'ont pas assez de publicité et qu'ils peinent à vendre en dehors de Kigali. L'année dernière, dit-il, la coopérative a vendu seulement 1600 nouvelles versions de Chanamake. Selon lui, il y a environ 6 points de vente dans la capitale, dont le marché de Kimirongo. Au fin fond du marché se dresse un stand avec quelques piles de fours de cuisson. Lorsque la VOA est arrivée, il n'y avait pas un seul nouveau modèle, mais sur demande du journaliste, les vendeurs sont allés en chercher un. La commerçante Laurence Ouamahoro dit qu'elle en vend environ 5 par mois et 30 de l'ancien modèle. Tout en reconnaissant qu'il est plus économique, elle avoue ne pas en avoir elle-même car, dit-elle, 8 dollars c'est trop cher. Un passant s'est joint à la discussion pour dire que ce four de cuisson est pour les gens riches. Le consultant de Practical Action au Rwanda, Iwan Bloomfield, estime qu'il faut améliorer le marketing de ce produit qui devait être vendu en porte-à-porte. Ma compréhension des types d'approches qui sont les plus efficaces, c'est quand des agents commerciaux sont en mesure d'aller visiter les ménages, de leur expliquer les avantages et en faire la démonstration, puis avoir le feedback d'une femme ou une autre personne ayant autorité dans la communauté et qui pourrait alors démontrer les réels avantages du système de cuisson. Ainsi souligne le spécialiste, il faut que les fabricants mettent l'accent sur les divers aspects de la vente au détail.
Et maintenant, les gros titres de l'actualité sportive. J'accueille Nicolas Pineau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Jacques.
En football, la CAF maintient sa décision de ne pas jouer dans les pays où sévit l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest.
Oui, contrairement à des rumeurs diffusées par certains médias depuis quelques jours, la Confédération africaine de football réaffirme que ni la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone ne peuvent recevoir de matchs à domicile. Une interdiction stricte qui sera réévaluée le 20 septembre à l'occasion d'une réunion au siège de l'Union africaine à Addis Abeba entre l'OMS et la commission médicale de la CAF.
Sur les terrains d'Europe, les premiers chocs en Ligue des Champions.
Oui, et doublé de l'Argentin Carlos Tevez qui permet à la Juventus de Turin de battre Malmö 2-0. L'Olympiakos s'impose 3-2 face à l'Atlético Madrid. Et puis le carton de la soirée au stade Santiago Bernabéu à Madrid puisque le Real bat le FC Bâle 5-1, Christian Bale, Cristiano Ronaldo, James Rodriguez et Karim Benzema, le quatuor magique, chacun auteur d'un but. Liverpool qui bat le Ludogorets 2-1, le Zénith Saint-Pétersbourg qui vient battre le Benfica à Lisbonne 2-0, Monaco qui s'impose sur la plus petite des marges 1-0 face au Bayer Leverkusen, Dortmund qui domine Arsenal 2-0 et score nul et vierge 0-0 entre Galatasaray et Anderlecht.
Gervinho prolonge avec l'AS Rome.
Oui, le club italien a officialisé la prolongation du contrat de l'attaquant international ivoirien qui est désormais lié à l'AS Rome jusqu'en 2018.
Et pour terminer, suite des soupçons de corruption sur l'organisation des Coupes du Monde 2018
et 2022.
Oui, Hans Joachim Eckert, le président de la chambre juridictionnelle de la commission d'éthique de la FIFA, a avoué hier douter que le football et l'éthique puissent encore fonctionner ensemble. C'est l'Allemand qui tranchera sur le dossier de l'attribution des mondiaux 2018 à la Russie et 2022 au Qatar. Après avoir lu méticuleusement le rapport d'enquête, « Beaucoup ne vont pas aimer ce que je vais leur dire », a-t-il prévenu. La décision, Jacques, devrait être prise dans quelques mois.
Merci Nicolas. L'heure du grand bol d'air frais musical du matin et nous retrouvons Roger Muntou. Bonjour Roger.
Bonjour Jacques. Sam Smith est né le 19 mai 1992 à Londres. Il est le fils d'un père au foyer et d'une mère banquière à la City qui pouvait, Jacques, gagner facilement 500 000 livres par an. En 2009, sa mère est licenciée pour avoir consacré trop de temps à la carrière de son fils au détriment de son travail. Et je crois, sincèrement Jacques, qu'elle n'avait pas tort. Hein. Sam Smith, ce matin, dans Stay With Me.
Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all.
Alors Roger, je comprends qu'à l'âge de 18 ans, Sam Smith part tenter sa chance à Londres, mais doit d'abord faire les petits boulots, barman, babysitter, pour survivre.
Oui Jacques, et d'ailleurs c'est ce que font plusieurs artistes avant de réussir dans leur carrière. Son premier single, Lay Me Down, en février 2013, rencontre un succès plus modéré. Puis il participe à La 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 des Naughty Boy. La chanson atteint la première place des charts au Royaume-Uni et en Italie. Et c'est suite à ce succès d'ailleurs qu'il sort durant l'été 2013 son premier EP Nirvana, dont est extrait cette chanson Stay With Me.
Stay with me. Cause you're all I need.
Sam Smith, Stay With Me. Merci Roger.
De rien Jacques, une dédicace spéciale à tous nos amis qui sont en train de nous suivre en ce moment à Niamey.
Rendez-vous quotidien avec Roger Muntou dans RM Show à 20h10. Fermer le monde aujourd'hui, un rappel à des titres avec Annal Botson.
Barack Obama a appelé hier à agir vite face à l'épidémie d'Ebola pour éviter que des centaines de milliers de personnes ne soient infectées. Le président américain a annoncé l'envoi de quelque 3000 militaires sur le terrain. Au Niger, les députés d'opposition ont déposé hier une plainte contre X pour vol et détournement de deniers publics après l'achat d'un nouvel avion présidentiel. Le plus haut gradé de l'armée américaine, le général Martin Dempsey, n'exclut pas la possibilité de déploiement de troupes américaines au sol en Irak pour combattre les djihadistes du groupe État islamique. De son côté, le département d'État a réitéré la position du président Obama, c'est-à-dire pas de troupes terrestres en Irak.
Merci Anne, Anne Albotson qui a également dirigé la mise en onde. Point final à cette édition du Monde aujourd'hui. C'était Jacques Aristide à Washington. Merci de votre fidélité. Très bonne journée de mercredi sur la VOA. À demain matin. Take care.
Pour les dernières nouvelles en Afrique,
aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington, la voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.